Prions ensemble, voulez-vous ? Notre Dieu, notre Père, accorde-nous ce matin, nous t'en prions, la grâce de comprendre ta grandeur, ta majesté, ta puissance, mais aussi ta volonté d'être au fond de notre cœur. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Vous avez comme moi remarqué que chaque fois que dans le monde, une catastrophe naturelle importante laisse les hommes dans le sentiment d'impuissance, les églises se remplissent et l'on parle de Dieu tout d'un coup. Plusieurs années en arrière, lorsque je me trouvais en Suisse, je me souviens qu'un pan de montagne a un jour dévalé et détruit une partie d'un village. Le spectacle était impressionnant. Le dimanche suivant, les églises étaient pleines. Lorsque ce sont des choses que l'on peut expliquer ou que l'on peut contrôler, pas besoin de mettre Dieu là-dedans. Mais quand tout d'un coup, la nature va un petit peu plus loin que ce que l'homme arrive à contrôler, tout d'un coup, on pense que Dieu est peut-être derrière. Mais je crois que ce que nous voyons dans le monde n'est absolument rien à comparer avec ce que pourrait être la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Ce ne sont que de petits échantillons minimes que nous pouvons voir. Et je pense à ce cantique que vous connaissez, qui se trouve dans notre recueil, c'est le numéro 7, où il est dit « Que Dieu se montre seulement, et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis épars, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce camp s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée. » Comme la cire fond au feu, ainsi des méchants devant Dieu la force est consumée. Que Dieu se montre un seul instant. Et la terreur remplira l'univers. Lorsque Dieu s'est manifesté au peuple hébreu, ce n'était pas, et de loin pas dans toute sa puissance, c'était encore une fois un tout petit échantillon de cette gloire et de cette puissance de Dieu. Et pourtant, elle était impressionnante. Regardez dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, ce qui nous est dit, en tout cas comment il a été perçu, comment cet événement a été perçu humainement parlant. Moïse raconte dans Exode, chapitre 19, verset 16, « Le troisième jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse fumée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. » Juste une toute petite démonstration, très petite, de la puissance de Dieu. Et le peuple est dans l'épouvante. Un peu plus loin, dans le même livre de l'Exode, au chapitre 24, nous retrouvons une description qui nous est faite au verset 15, au moment où Moïse monte sur la montagne. Exode, chapitre 24, verset 15, dit ceci, « Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. » Et je peux comprendre que les Israélites se sont demandé, Moïse est-il encore vivant? La manifestation minime de la gloire de Dieu à cet endroit-là était déjà effrayante, traumatisante pour eux. Cependant, cette nuée, ce feu qui est là déployé à la grandeur de la montagne, ce ne sont pas des manifestations nouvelles pour le peuple hébreu. Ils connaissaient cela déjà. Et on peut le voir dans le même livre de l'Exode au chapitre 13. C'est le verset 20. Exode chapitre 13, verset 21. Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Ils connaissaient la nuée, ils connaissaient le feu, mais cette fois-ci dans une manifestation un peu différente. Colonne de nuée, colonne de feu. Dieu s'était manifesté par ce moyen-là de jour et de nuit pour exprimer sa présence, pour exprimer sa protection. Souvenez-vous d'ailleurs, cette colonne de nuée et de feu s'était interposée entre le peuple et les Égyptiens lorsqu'ils avaient traversé la mer Rouge. C'est ce qui avait empêché les Égyptiens d'ailleurs de rejoindre le peuple. Il avait donné l'occasion au peuple de rejoindre l'autre rive en sécurité, gardant les Égyptiens à l'intérieur de la mer, c'est là qu'ils ont trouvé la mort. Dieu était intervenu, il s'était interposé par la colonne de feu et la colonne de nuée. C'était une puissance protectrice. C'était aussi probablement d'une immense beauté de voir pendant la nuit cette colonne de feu qui était là présente. Une présence extraordinaire, une présence puissante, une présence aussi rassurante. Mais lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait bien et il le fait beau. Et je pense que beaucoup d'Israélites tournaient le regard vers cette colonne de feu et en admiraient la couleur, le mystère. Cette nuée aussi se manifeste d'une façon toute spéciale lorsque le sanctuaire est construit. Toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 40, nous retrouvons les mêmes phénomènes au moment où, après avoir construit le sanctuaire, vient le moment de le monter pour la première fois. Ils ont travaillé pendant un certain temps pour en fabriquer tous les éléments. Et un jour, ils vont monter le sanctuaire. Le monter depuis le fond, depuis le lieu très saint, en sortant progressivement. Et nous avons la description de cet événement dans le chapitre 40. À la fin du chapitre 40, pour terminer le livre de l'Exode, il nous est dit ceci au verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Cette compassion de Dieu me touche beaucoup. Vous qui êtes père dans cette salle aujourd'hui, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous n'avez jamais eu un enfant qui vous dit « Papa, il fait trop sombre dans ma chambre. » Alors vous allez chercher une petite veilleuse, vous branchez une petite veilleuse, et il y a une petite lumière pour les enfants la nuit, pour qu'ils ne pleurent pas, qu'ils n'aient pas peur du noir. Dieu, dans sa bonté, va mettre une grosse veilleuse pour tout le peuple. Une lumière pour que les enfants d'Israël n'aient pas peur pendant la nuit, parce que Dieu est présent jour et nuit à leur côté. J'aime la compassion de ce Dieu qui comprend et qui intervient pour rassurer ses enfants, pour les protéger et surtout pour les conduire. Le texte nous apprend que cette nuée et cette colonne de feu demeuraient au-dessus du sanctuaire. Lorsqu'elle restait là, il restait là. Et lorsqu'elle s'élevait et s'apprêtait à partir, eux aussi s'apprêtaient à partir. Dieu conduisait son peuple par la nuée et par le feu. Ce n'était pas une nuée dont ils avaient peur, ce n'était pas un feu qu'ils craignaient. Le Nouveau Testament, d'ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 10, nous rappelle qu'ils étaient conduits par Christ lui-même, celui qui, bien plus tard, viendra sous le nom de Jésus. Dieu sauve, était dans la nuée, il était dans le feu. D'ailleurs, pour Moïse, ce n'était pas nouveau. Lorsque Moïse regardait ce feu, revenait constamment à lui ce buisson ardent dans lequel Jésus lui avait parlé. Ce même buisson ardent était maintenant flamboyant au-dessus du tabernacle. Il conduisait le peuple. Et je peux imaginer que chaque fois que Moïse levait les yeux vers cette colonne de feu, il repensait dans son esprit à cette conversation qu'il avait eue, presque face à face avec celui qui s'appelle « Je suis ». Présence bienveillante d'un Dieu qui fait corps avec le temple. Jésus, bien plus tard, va essayer de faire comprendre à son peuple qu'il fait un avec le temple, qu'il est lui-même ce temple. Il avait dit qu'il voulait demeurer au milieu d'eux par l'intermédiaire de ce temple. Ainsi, Dieu était réellement présent et se manifestait d'une manière curieuse. Parce que d'un côté, il y avait ce Dieu trois fois saint, inaccessible, parfait, ce Dieu inapprochable. Et puis d'un autre côté, il y avait ce Dieu compatissant, ce Dieu qui les conduit, ce Dieu qui les défend, ce Dieu qui les garde, qui les protège, de jour comme de nuit. Un Dieu finalement très nébuleux. Un Dieu dans les nuages, un Dieu dans le feu, mais un Dieu aussi dans le temple. Et finalement, lorsque l'on va dans le Nouveau Testament, ce Dieu qui est dans le feu, ce Dieu qui est dans la nuée, ce Dieu qui est dans le temple, veut devenir aussi un Dieu qui est dans notre cœur. Dans le Nouveau Testament, on pourrait penser que cette manifestation de la nuée et du feu ont disparu. Et pourtant, le Nouveau Testament nous fait comprendre que, dans cette époque-là aussi, Dieu s'est manifesté de la même manière par la nuée et par le feu. Regardez avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 2. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, nous retrouvons en réalité la même manifestation. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, nous lirons les trois premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Dieu se manifeste ici dans le Nouveau Testament de la même manière exactement qu'il s'est manifesté dans l'Ancien. Dans l'Ancien Testament, cette colonne de feu reposait là au milieu pour tout le peuple. Dans le Nouveau Testament, cette colonne de feu, de plus petite taille cette fois, n'est pas globale ou collective pour tout le peuple. Elle repose maintenant sur des individus. Et le texte nous dit précisément que c'est ces langues comme des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et on a l'impression que Luc a de la difficulté à décrire ce qu'il voit. C'est, disait-il, semblable à des langues de feu. Et c'est vrai, ce n'est jamais qu'une manifestation de la présence de Dieu, mais c'est un Dieu indescriptible. C'est un Dieu indéfinissable et qui s'est manifesté là dans toute sa puissance pour des individus. Cette colonne de feu, elle existe encore. Elle s'est manifestée au moment de la Pentecôte, elle se manifeste sur les enfants de Dieu. Elle est présente sur chacune de nos têtes. Et la colonne de nuée alors ? La colonne de nuée, nous la trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3. Évangile selon Matthieu, chapitre 3. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 16. Il nous est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Notre imagination, le travail des artistes contemporains, ont fait que dans notre esprit, l'esprit, lorsqu'il se manifeste, c'est une colombe. Et l'on reprend aujourd'hui largement cette image de la colombe en faisant suggestion que c'est la manifestation du Saint-Esprit. Le texte ne dit pas ça. Encore une fois, Matthieu a du mal à décrire ce qu'il voit. Et que voit-il ? Il voit là une petite colonne de nuée qui s'est manifestée au-dessus de la tête de Jésus à son baptême. Et pour le décrire, c'est indéfinissable chose. Il dit ça ressemblait, c'était comme une colombe qui volait. Il n'a pas vu une colombe n'est pas venue. C'était la colonne de nuée de l'Ancien Testament qui s'est manifestée de jour sur le Christ et qui a été décrit par Matthieu comme quelque chose qui ressemblait à un oiseau qui volait. Cette colonne de nuée dynamique au-dessus de la tête du Christ. De la même manière, s'est posé individuellement sur lui. Ainsi, la colonne de feu et la colonne de nuée de l'Ancien Testament sont toujours présentes dans le Nouveau. Elles sont cette fois-ci individualisées. Elles sont pour les disciples du Christ qui, eux aussi, remplissent les conditions pour recevoir l'action de Dieu en eux, dans leur vie. De la même manière que le peuple était conduit par cette colonne de nuée de jour et cette colonne de feu de nuit, que nous savons être la manifestation du Christ lui-même, de la même manière, Jésus aujourd'hui veut par son esprit conduire ses enfants tout aussi sûrement de jour comme de nuit. Ainsi, l'action du Christ par son esprit veut se poursuivre encore aujourd'hui pour atteindre le même objectif. Le Nouveau Testament, cependant, nous enseigne très clairement que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Collectivement, en tant qu'Église, sans doute, mais individuellement aussi. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, l'exprime très clairement. Vous êtes le corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Nous sommes individuellement ce temple au-dessus duquel voudrait se manifester la présence de Christ, au sein même duquel le Christ veut être présent. Ainsi, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, nous apprenons de quelle manière il se manifeste. Évangile selon Jean, chapitre 16, et nous lirons les versets 8 à 11. Vous connaissez ce passage qui nous indique quelle est l'action du Saint-Esprit. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 8. « Et quand il sera venu, Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. L'action du Saint-Esprit dans le temple que nous sommes s'oriente, nous dit le texte, dans ces trois dimensions. Et ce n'est pas surprenant parce que c'est exactement dans la lignée de ce que la Bible nous enseigne concernant le sanctuaire. Il nous est dit que le Saint-Esprit va nous convaincre de péché. En effet, si nous n'avons pas pris conscience que nous sommes des pécheurs et que c'est une situation irrémédiable, donc mortelle, nous n'allons jamais chercher une solution à ce problème-là. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous faire comprendre où nous en sommes, avec le besoin impérieux d'un sauveur. Mais souvenez-vous, c'est précisément dans le parvis du sanctuaire que ce sauveur est présenté, sur l'autel des sacrifices. C'est sur l'autel des sacrifices que chaque fois qu'un sacrifice était fait, une image se reproduisait, invitant à regarder à celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, chaque sacrifice. C'est effectivement dans le parvis que cette action du Saint-Esprit, nous tournant le regard vers Jésus, nous fait comprendre à quel point nous sommes pécheurs ayant besoin d'un sauveur. Notre orgueil n'y change rien. Le fait de bien nous sentir dans notre peau ne change rien. Le fait que tout va bien autour de nous n'y change rien. Nous sommes condamnés à mort ayant besoin d'un sauveur. Le parvis nous l'enseigne. Et c'est aussi dans ce parvis que, touchés par la grâce de Dieu au travers du sacrifice même de Jésus pour nous, nous sommes invités à répondre, à l'accepter ou à le refuser. Mais en l'acceptant, le deuxième symbole du parvis émerge, et c'est la cuve des ablutions qui est une image du baptême. C'est justement par le baptême que nous acceptons notre situation de péché et que nous acceptons par là même aussi Jésus comme notre sauveur. La colonne de feu, la colonne de nuée, l'Esprit agissant dans ce sanctuaire continue son action et met en évidence le message du parvis. Mais le texte de l'évangile de Jean au chapitre 16 nous dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il agira, non seulement va nous convaincre de péché, mais il va aussi nous convaincre en ce qui concerne la justice. Et là encore, nous apprenons que nous avons, nous dit Jean dans la première épître, dans sa première épître, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Le lieu saint du sanctuaire était le lieu même de l'intercession. C'est là que le sacrificateur pénétrait avec le sang, recevant de la part de Dieu le pardon des péchés du peuple. Le lieu saint est le lieu même de l'intercession. C'est là, par le ministère de Jésus-Christ dans le lieu saint, que nous obtenons de sa part sa justice. Et nous en avons besoin. Celui qui n'a pas rencontré le Christ dans le parvis ne sent pas le besoin de la justice du Christ qui est offerte dans le lieu saint, bien entendu. Et cependant, l'action du Saint-Esprit se poursuit pour nous faire comprendre que nous n'avons pas simplement besoin d'être pardonnés une fois, nous avons besoin d'être couverts par cette justice du Christ, que notre caractère soit changé, que notre vie soit réformée à son image. Nous avons besoin de recevoir cette justice du Christ. Elle est imagée par le ministère dans le lieu saint du sanctuaire. Mais le texte continue en nous disant aussi que le Saint-Esprit nous convaincra en ce qui concerne le jugement. Dans l'Ancien Testament, la fête des expiations était l'expression même du jugement du peuple. C'était dans cette fête des expiations que le jugement de Dieu se faisait sur le peuple, et je vous rappelle que dans la parole de Dieu, relisez pour cela le psaume 96-98, le jugement de Dieu est une bonne nouvelle. Le jugement de Dieu n'est pas d'abord la condamnation de cet épouvantable être humain. Le jugement de Dieu, c'est d'abord la réhabilitation de l'enfant de Dieu. Et c'est nécessaire encore une fois, et c'est exactement ce que représente le lieu très saint du sanctuaire. Parce que c'est là que se faisait pour la seule fois de l'année ce ministère qui n'est pas simplement un ministère d'intercession, mais aussi un ministère de jugement. Et vous savez comment dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 27, il est écrit en parlant de Jésus, il lui a donné, et c'est Dieu, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Jésus, dans son ministère final, ne va pas perdre son ministère d'intercession, il va y ajouter celui de juge, et c'est ce qu'il accomplit maintenant dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Nous avons besoin aussi du jugement de Dieu. Nous avons besoin du regard de Dieu sur nous, du regard qui nous fait comprendre notre situation, qui nous conduit à Christ, parce que nous avons besoin de son sacrifice et de sa grâce. Ce regard qui nous fait comprendre que nous avons besoin de recevoir sa justice, son caractère. Pas seulement le pardon dans sa mort, mais la régénération de notre vie par sa vie aussi. Finalement, besoin de la réhabilitation totale en tant qu'enfant de Dieu par le jugement même de Dieu pour ses enfants. Ainsi, la colonne de nuée, la colonne de feu continue son action aujourd'hui. Et si véritablement nous sommes des temples du Saint-Esprit, le Christ veut agir en nous encore une fois de cette manière-là, en nous convainquant de péché, en nous convainquant de la nécessité de recevoir la justice du Christ et d'être prêt pour son jugement, parce qu'il aura accompli en nous une œuvre que nous ne pouvons pas accomplir. Ainsi, pour tous ceux qui, aujourd'hui, sont en marche, non pas vers une terre promise terrestre, mais qui sont en marche vers la terre promise céleste, tous ceux qui sont en marche vers le royaume des cieux au travers de ces années de désert, la colonne de feu et la colonne de nuée est encore disponible aujourd'hui. Elle est disponible à tous ceux qui, individuellement, ont choisi les directives de celui qui est caché dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu. De la même manière que le Christ a conduit son peuple au travers du désert, il est capable de nous conduire, nous aussi individuellement, au travers de nos déserts. Il veut le faire aujourd'hui comme il le faisait autrefois. Cependant, l'histoire du peuple d'Israël nous rappelle, et nous rappelle d'ailleurs durement, que le peuple a manifesté un esprit terriblement rebelle aux directives de Dieu déjà à ce moment-là. Ils avaient beaucoup de mal à suivre la colonne de feu et la colonne de nuée. C'était difficile pour eux parce qu'ils voulaient prendre un autre chemin. Un chemin moins dur, un chemin moins pénible, un chemin moins ardu, un chemin moins long. Et il se peut qu'aujourd'hui encore, nous regimbions contre cette directive du Seigneur qui peut-être nous semble nous emmener faire un immense tour dans le désert au travers d'un chemin long et difficile et pénible et inutile. Cependant, nous savons que si le peuple de Dieu avait suivi cette nuée avec confiance, avec fidélité, avec foi, finalement, beaucoup d'épreuves auraient été évitées à ce peuple dans le désert. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, beaucoup d'épreuves nous seraient évitées dans nos déserts si nous acceptions de suivre le Christ qui se manifeste encore aujourd'hui par la nuée par le feu, qui veut nous conduire et qui voudrait que nos vies soient dirigées par lui d'une façon beaucoup plus précise. Sans aucun doute, cela implique de notre part d'accepter que le Seigneur travaille en nous, nous convainque de péché, de justice, de jugement, et qu'il nous montre combien nous avons besoin non seulement d'être sauvés, mais d'être guidés déjà ici-bas. Nous sommes tous bien placés pour savoir à quel point c'est difficile de nous laisser conduire. Nous sommes tous bien placés ici pour pouvoir témoigner de cet esprit de rébellion qui remonte en nous régulièrement. Et cependant, je crois que la parole de Dieu nous fait comprendre à quel point le Seigneur veut nous conduire avec autant de douceur, autant de compassion, autant de patience qu'il le faisait autrefois avec le peuple d'Israël. Peut-être que nous ne voyons pas les colonnes de nuées ou de feu au-dessus de nos têtes, mais le Seigneur a donné suffisamment de manifestations de sa grâce, de sa force et de son amour pour que par la foi nous puissions saisir ces vérités bibliques et savoir qu'aujourd'hui encore, il nous conduit pour autant que nous acceptions qu'il nous conduise. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 4, le prophète représente encore ces manifestations de la puissance de Dieu, mais dans une dimension prophétique. Ésaïe, chapitre 4, nous lirons les premiers versets. Ésaïe, chapitre 4, à partir du verset 2, il est écrit « En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour, un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. » Ce texte du prophète Ésaïe nous projette tout de suite dans la perspective de la fin des temps. Il est question du germe de l'Éternel, du reste de Sion. Et il annonce qu'il va nettoyer les ordures de Jérusalem. Lorsqu'il aura fait cela, tous ceux qui resteront et qui auront ce désir d'être conduits trouveront encore l'abri et la protection dans la colonne de feu et dans la colonne de nuée qui les conduira jusque dans la demeure éternelle. Le Seigneur ne va pas tarder à nettoyer les ordures de Jérusalem spirituelle. Mais il en est dans Jérusalem qui accepte d'être conduit par le Christ, qu'il se manifeste par la nuée, qu'il se manifeste par le feu, mais qu'il se manifeste et qu'il conduise nos vies. C'est la grâce que je demande pour moi et pour vous. Amen.